Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée sur Radio Ndekeluka. Une présentation de Fred Yapende. Fred, bonjour.
Bonjour Ghislain, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, les titres. L'inquiétude monte au sein de la population de Kagabandoro. Elle assiste ces derniers jours au transfert de base des groupes armés. Elle crie à l'aide. Agitation des ex-Séléka dans le nord de la République centrafricaine. Malgré l'initiative de l'Union africaine en cours pour la paix, certaines factions continuent de faire des démonstrations de force. 5 morts dont 2 femmes, c'est le bilan d'un accident de circulation samedi dernier sur la colline de Garka dans la commune de Gallo, à 65 km de Boire. On bat le championnat de la Ligue de Bangui est suspendu jusqu'à nouvel ordre par le comité ad hoc de la Ligue. Le bureau a publié sa démission. Le nouveau président de la fédération se dit surpris. L'inquiétude monte à Kagabandoro suite à des agitations des groupes armés. La population qui explique assister ces derniers jours à des mouvements et transferts de bases de ces hommes armés lance un SOS aux autorités centrafricaines pour mettre un terme aux violences perpétrées par ces éléments dans la région. Le point avec Bonaventure Ngomba Katikiro.
Ces actes de violence qui refont surface sont, entre autres, les braquages, les barrières illégales, voire des viols sur mineurs, ainsi que d'autres formes de violence sur les personnes civiles. Un notable sous l'anonymat.
Depuis qu'on a enlevé le contingent burundais au niveau de Ndomepe, la situation sécuritaire à Kagabandoro s'est lamentablement dégradée. Les éléments de MPC, mais beaucoup plus FRPC de Abdoulaye Hissène, sont beaucoup plus libres. Ils viennent même jusque braquer proche de la construction de Mimouska. Donc ils ont été enlevés et puis bon, c'est les Pakistanais, mais bon, c'est devenu très perméable. Donc il y a beaucoup de braquages. Il ne se passe plus une nuit à Kagabandoro sans braquage. Ce sont des actes qui sont fréquents, hein, sur les axes de Ngrival, sur les axes de Ouandagou, beaucoup plus maintenant aussi sur l'axe Kagabandoro-Dekwa.
Ces mêmes sources continuent de dénoncer la complicité des soldats pakistanais dans les libres mouvements et exactions des ex-Séléka. Contacté, le préfet de la Nana Grébizi se dit en ce moment à Bangui. Il promet se prononcer sur la situation lorsqu'il serait de retour à Kagabandoro, car il ne fait pas confiance aux appels téléphoniques reçus au sujet de ces problèmes.
Merci, bonne aventure.
Les ex-Séléka renforcent leur influence dans le nord de la République centrafricaine.
Alors que des initiatives sont en cours pour un dialogue entre le pouvoir et les groupes armés, certaines factions ex-Séléka s'agitent dans le nord. C'est le cas du FPRC qui a récemment fait une démonstration de force et brandi la partition du pays dans un reportage de France 24, précision de Eda Diko.
Le FPRC, dirigé par Noureddine Adam, est la plus puissante faction ex-Séléka connue pour son double langage. Il est présent dans plusieurs régions du Nord-Est avec la tête du commandement installé à Ndélé. Ce groupe armé réfractaire au processus de désarmement s'est montré plutôt favorable à l'initiative de l'Union africaine pour la paix en Centrafrique. Alors que ce processus est en cours et qu'un dialogue devrait très prochainement réunir le pouvoir en place, démocratiquement élu et les groupes armés actifs dans le pays, la surprise a été grande dans un reportage de France 24. Dans cette vidéo de 28 minutes diffusée mi-juillet, on y voit le chef militaire du FPRC, Abdoulaye Hissène, et ses combattants lourdement armés menaçant de marcher sur Bangui et brandissant la partition du pays. Cette position très controverse suscite des interrogations quant aux engagements de ces hommes armés à intégrer le processus de paix et à cesser les hostilités. Dans ce reportage de France 24, il a été clairement mis en exergue le règne du FPRC en l'absence de l'État et devant l'impuissance de la MINUSCA à contrer les activités de ses combattants. Ces ex-rebelles se substituent aux forces armées, à la police, à la gendarmerie, au service des impôts et des douanes, prélevant des taxes sur les véhicules et les marchandises. Depuis l'annonce de cette rencontre dont la date n'est pas encore dévoilée, les groupes armés multiplient leurs activités à l'intérieur du pays. Le MPC de Al-Khatim s'est fait parler de lui dans la région d'Embré, dans la Nana Grébizi, l'UPC dans la Waka, puis dans la Basse-Koto et les 3R dans l'Ouampéndé. L'initiative de l'Union africaine pour la paix produira-t-elle des résultats positifs attendus? Les groupes armés qui abondent le pays jouent-ils franc jeu? Jusqu'à quand le dernier épisode de la série Groupes armés en Centrafrique? Autant de questions que se posent aujourd'hui les Centrafricains.
La persistance de l'insécurité au kilomètre 5, Fred, augmente l'inquiétude dans les quartiers environnants.
La majorité des habitants d'une partie des 3e et 6e arrondissements ont fui leur domicile pour se réfugier dans d'autres quartiers de Bangui. Des habitations abandonnées dans ces localités commencent à tomber en ruine. Gildas Nabeza.
Nous sommes dans une partie du quartier Kwetene 1, ici aux alentours de la maison des jeunes de Fatima, ce dimanche 22 juillet, aux environs de 9h, l'ambiance est morose. Le secteur est sinistre, à part des bruits d'oiseaux. Nous sommes accompagnés du chef de quartier, Sylvain Ondranzoyen.
Voyez-vous, il n'y a personne. Les habitations sont abandonnées. Regardez même. Ces maisons, pas de porte, ni fenêtre, tout est enlevé. La récente opération au kilomètre 5 a aggravé la situation. Cette partie du quartier est incontrôlée, pas de force de l'ordre. C'est vraiment déplorable.
De temps en temps, quelques habitants reviennent pour visiter leurs maisons, dont la plupart commencent à tomber en ruine. C'est le cas ce matin de Deme Mongola, qui a aussi abandonné sa maison.
Comme vous le voyez, il n'y a aucune trace d'être humain. Il n'y a même pas les coqs, il n'y a même pas les cabris. Donc la maison est vraiment abandonnée à elle-même. Au-delà de 9h en allant, le coin est un peu sinistre. Ça ne donne même pas envie d'habiter ici. Donc on est ailleurs, puis on vient de temps en temps visiter si on n'a pas eu des dégâts sur la maison, tout ça.
Situation identique dans les quartiers Kokoro 2, 3 et 5, ainsi que dans le quartier Makambo. Afin de favoriser leur retour à domicile, les habitants des secteurs concernés réclament la sécurité. Hervé Boris Willibia, chef du quartier Kokoro 3.
C'est un appel que je lance à l'endroit du gouvernement de tourner quand même vers nous, parce que ce qui avait été dit par le gouvernement, qu'ils vont faire tout possible pour mettre un ceinture de sécurité tout autour de PK5 pour sécuriser la zone sud. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait dans notre secteur.
Au moment de notre reportage dans le secteur, nous avons constaté la patrouille des casques bleus à bord d'un engin de combat. D'après les habitants, ces patrouilles ne sont pas régulières et ne leur inspirent pas confiance.
Vous nous suivez sur les www.radiondikiluka.org.
Un drame survenu samedi dernier sur la colline de Garka, dans la commune de Gallo, à 65 km de Boire, dans la Nanamambéré.
Un accident de circulation a fait 5 morts, dont 2 femmes, tous des passagers à bord d'un véhicule de transport en commun. Selon les informations, une panne technique serait à l'origine de cet accident. Le récit du drame avec notre correspondant à Beluko, Daniel Mbelimbari.
Oui, effectivement, hier soir, aux environs de 16h sur à la descente de Garga, une falaise située entre Gallo et Baboua, un véhicule marque Renault qui était parti dans le convoi de l'après-midi de Beluko pour Bangui a essayé dans une grande vitesse pour doubler un véhicule marque CBH320. Par rapport au renseignement, ils auraient eu l'air qui s'était vidé et puis finalement le véhicule Renault a fini par poigner sur le CBH et il y a eu un cas d'accident.
On dénombre combien de victimes, Daniel?
D'après les renseignements reçus au niveau local, il y a au moins 5 morts des passagers qui étaient dans la cabine. D'après les renseignements reçus sur téléphone portable, les corps de ces victimes seraient en train d'être évacués pour boire.
Daniel, dites-nous, est-ce que les accidents sont-ils fréquents sur ce axe?
Effectivement, Jean, eux de ces accidents sont très fréquents. Ces derniers temps, en tout cas, il y a eu un moment où le procureur de grande instance de Boire avait donné des instructions interdisant aux conducteurs de porter des passagers sur des marchandises. En ce moment, il y a eu un peu de ralentissement de ces cas d'accident. Seulement la semaine dernière, à la sortie de Beloko, entre Beloko et Croisement Koundé, un véhicule du Juru qui essayait de se ranger dans le convoi heurtait une voiture bien chargée en destination de Boire. Le dégât a été de 4 blessés graves et puis des marchandises qui étaient trouvées à faire.
Quelles sont les causes de ces accidents sur cet axe?
Les principales causes de ces accidents sont les dépassements incontrôlés, les excès de vitesse et je crois des pannes effectivement comme celui d'hier.
Daniel Mbelimbari, notre correspondant à Beluko, joint par Jean-Hud Bagali.
Il est 13h09, Fred, de l'Union européenne renforce les capacités du ministère des Finances et du Budget dans la réforme des finances publiques.
Ceci à travers un projet dénommé Budget et Système d'information. Ce programme vise à améliorer la transparence budgétaire et la fiabilité des comptes au sein de ce département, exécuté par Expertise France. Au micro de Karine Estelle-Bibi, Gildas Hinou, chef de mission TBSI, présente les différents piliers de ce projet.
Nous avons trois composantes. Au niveau du système d'information, la grosse partie, ça va être la définition d'un schéma directeur pour le ministère des Finances. L'objet de ce schéma, c'est de définir l'informatique du futur du ministère des Finances dans 3 à 5 ans. La deuxième composante au niveau du budget, ça va être d'aider la direction générale du budget à conduire la réforme budgétaire. L'expert qui est auprès du directeur général du budget va aider cette direction à conduire la réforme puisque ça implique beaucoup de modifications. Par exemple, l'intervention des ministères sectoriels, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et puis aussi une préparation du budget sur plusieurs années. Aujourd'hui, c'est fait que année par année. Et la troisième composante, donc c'est auprès de la comptabilité publique. Et là, il y a deux petites parties. Donc c'est l'aide à la gestion de la trésorerie de l'État. L'objectif pour nous, c'est d'aider à établir des outils de gestion de trésorerie pour que l'État puisse payer toutes ses dépenses en temps et en heure. Et deuxième partie, c'est la tenue de la comptabilité pour que tout ce qui est dans les comptes de l'État reflète exactement la situation du patrimoine de l'État, que ce soit en dépenses, en recettes ou dans ses investissements et ses bâtiments.
Nous ouvrons la page des sports avec Providence Judiro Bondi. Providence, bonjour.
Bonjour Fred Honner et Apende, bonjour à tous.
En handball, le championnat de la Ligue de Bangui est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
Il est suspendu par le comité ad hoc de la Ligue qui gérait les activités. Le bureau a officiellement publié sa démission au lendemain de la mise en place des nouveaux dirigeants de la fédération samedi dernier à l'issue d'une assemblée générale à Bangui. Romarek Diobeni, Andiayo, Tikpasio, ex-secrétaire général de la Ligue de handball de Bangui.
Il y avait une crise au niveau de la Fédération sud-africaine de handball. Alors, il était nécessaire de mettre une ligue en place en attendant pour que les athlètes puissent s'exercer. Raison pour laquelle ce bureau a été mis en place. Et comme le bureau fédéral est déjà élu, il est nécessaire de nous retirer et laisser la latitude à ce nouveau bureau de pouvoir installer un nouveau bureau de la ligue pour pouvoir continuer les activités que nous avons déjà démarrées en amont.
Le nouveau président de la Fédération centrafricaine de handball, Dr Patrick Ningatandita, se dit surpris de cette démission.
L'idée principale pour ceux qui géraient cette ligue-là, c'était de faire occuper les enfants qui, depuis 2 ans, n'ont pas de compétition. Pour notre part, nous avons écrit au comité ad hoc pour dire que la mise en place de cette ligue-là est illégale parce que la fédération n'existait même pas. Maintenant, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fonctionné dans l'illégalité. C'est honnête de leur part d'apporter leur démission. Nous avons pris acte de cette démission et dans les jours à venir, nous allons voir comment nous allons mettre un nouveau bureau de la Ligue de Bangui de handball en place.
Le championnat de la Ligue de Bangui est suspendu alors que les athlètes viennent de jouer les rencontres de la 5e journée.
Voilà, nous poursuivons donc avec le basketball éliminatoire de la Coupe du Monde 2019 en Chine, zone Afrique. Le calendrier et le pays organisateur du 2e tour sont déjà connus.
Les éliminatoires se dérouleront du 14 au 16 septembre au Nigeria. La RCA jouera son premier match contre le Mali. Les Fauves croiseront ensuite le Nigeria, jusque-là considéré comme leur bec noir le 15. Et la RCA disputera son dernier match le 16 septembre face au Rwanda. Jusqu'à présent, le programme de stage des Fauve de Bazoubangui en prélude à ces éliminatoires n'est pas encore rendu public. On rappelle, lors du premier tour en juin dernier à Dakar, le Centrafrique a occupé le 2e rang après le Sénégal.
Football fin hier du championnat retour de la Ligue de Bangui au stade Barthélémy Bougonda.
Oui, Fred, Asopeti a dominé Red Star de but à 1 et FC SOS a eu raison des Anges de Fatima 1 à 0. La 2e journée démarrera demain mardi.
En délai, les dernières rencontres de la 15e journée du championnat retour ont été aussi disputées hier.
Aigle de Sinoussi a battu Mandiki 3 à 0. Par contre, Tempête Mokaf est tout puissant. Sazara ont fait un match nul, 1-0.
Merci Providence, c'est la fin de cette édition sur Radio Ndikiluka. Merci de l'avoir suivi.